et les plats. Allons au devant de la vie, allons au devant du matin. De nous parlons, chantons, au vent. Ce cœur, marchons vers la gloire et le monde, marchons au devant du bonheur.
Le monde, la gloire, chantons au vent.
Mettons en commun, camarades, nos plans, nos travaux, nos soucis.
De nous, la gloire, chantons au vent, de
vous,
amis. Le vent et le soleil, le vent, l'enfant.
Dans le crayon fond à l'aigresse, les jeunes s'élancent en chantant.
Bonjour. Les 27, 28, 29 janvier 2000, la compagnie L'Atelier du Désordre proposait à la Condition des Soies, en coproduction avec cette institution, son spectacle en hommage au mouvement du Front populaire et à l'obtention des congés payés en 1936. Le titre en était « 1936, les premiers congés payés » dans une mise en scène de Maud Martin. Nous vous proposons, à l'occasion des 80 ans du Front populaire, un document inédit réalisé à partir d'un montage du son de la presque intégrale du spectacle. Un son masterisé un brin, avec quelques ajouts d'enregistrements de chansons associés à l'épisode du Front populaire. Les acteurs de ce spectacle étaient Myriam Albet, Frédéric Couchou, Fabrice Bubroca, Marion Poincelet, Pierre-Yves Robles. Bonne écoute.
Aller au travail en 1936, se disait encore aller au chagrin. Cette indignation, Léo, autour de votre projet de loi. 15 jours de congés payés, dont 12 jours ouvrables. Vous vous rendez compte? Toute la presse bien pensante s'y était mise, même les chansonniers. On ironisait sur l'existence d'un sous-secrétariat d'État aux loisirs. On vous soupçonnait de vouloir embrigader leur aile. Vous vous souvenez? On avait taillé les crayons très pointus pour faire le compte exact de ce que vos largesses coûteraient au pays. Paralysie générale, flambée des prix, faillite de l'État, de l'industrie et du commerce international. Le manifeste des croix de feu hurlait. La notion du travail, de l'ordre et du courage a été abolie. Il se trouva même des spécialistes de la vertu sans alcool pour prédire une affreuse épidémie de soulographie. D'après eux, les prolos livrés à l'oisiveté plongeraient tout habillés dans le pinard. La cuite nationale. Ce qui adduisait que 12 mois de turbin sur 12 constituait la meilleure garantie de la sobriété publique. Ah, moi, voilà. Jusqu'au directeur du réseau d'État de chemin de fer qui reprochait à votre billet réduit d'être anti-ferroviaire. Anti-ferroviaire, les gars. Par votre faute, cet été-là, 560 000 personnes s'offrirent à billets anti-ferroviaires, jetant sur les rails des centaines de trains anti-ferroviaires. Qu'on voit là que le journal Je suis partout qualifiait de train rouge. C'est tout de même bizarre la politique. Ça ressemble parfois à une nouvelle de Marcel Aimé. Un jeune sous-secrétaire d'État, Léo Lagrange, mitonne une petite loi qui flanque la basse-cour dessus-dessous. Messieurs les députés déposent leur bulletin. Et qu'est-ce qui sort de l'urne ? Une saison toute chaude. À quoi ressemblait l'été, Léo, avant que vous l'inventiez ?
Il est interdit de chanter.
À la chaîne, il est interdit de fumer.
Au grand magasin, il est interdit de croiser les jambes.
Au grand magasin, il est interdit de mettre les mains derrière le dos.
À la chaîne, de fifler, de parler à son voisin d'établi.
Il est interdit de se tutoyer et de s'asseoir.
Il est interdit de quitter son poste de travail.
Il est interdit de se plaindre.
Voyons, mon fils, que se passe-t-il ? Vous avez demandé à boire.
Oui. Voilà. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous assure pourtant que je fais attention à tout. J'ai une faveur à vous demander. J'ai beau calculer dans tous les sens, j'arrive pas à m'en sortir. 300 francs par mois, c'est trop juste. En plus, il y a le repas de midi qu'il faut prendre à la cantine. Ça fait déjà 4 francs par jour.
Écoutez, mon petit. Que faites-vous de votre soirée ?
Je suis dans votre usine depuis 4 ans. Il me semble que j'ai toujours bien travaillé. Je ne suis jamais arrivée en retard. Je n'ai jamais été absente. Mais en ce moment, on ne peut pas s'en sortir.
Et que faites-vous de votre beauté ? Si votre salaire ne vous suffit pas, prenez un ami pour vous aider. Vous verrez, c'est encore mieux que le bureau de bienfaisance. Que faites-vous ce soir ?
Que je peux retourner à mon poste de travail.
Détends, petite. On a du mal à tenir la cadence en ce moment. Il va falloir que les feignants en mettent un coup. C'est pas une maison de santé ici. Et c'est pas avec des sentiments qu'on fait marcher une usine. Un conseil. Ne cherchez pas trop à vous mettre en avant. Il pourrait vous en cuire. Vous savez où me trouver ? Réfléchissez.
On a toujours peur des contremaîtres, des brimades, du chômage.
Aujourd'hui, quand on est métallois à l'ancienne, soit on s'inscrit au fonds de chômage pour toucher les secours, soit on chôme 2 jours par semaine.
On gagne moins qu'avant et ils nous traitent de fainéants. Ils disent qu'il faut consommer moins et exporter plus.
On a peur des accidents et de la tuberculose.
On est chronométré et sanctionné. C'est l'enfer des cadences. Le même geste, 100 fois, 1000 fois répété.
Les grèves, ça voulait dire quoi, travailler en usine? Ça voulait dire que toutes les raisons extérieures sur lesquelles s'appuyer pour le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même, ont été en 2-3 semaines radicalement brisées sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait être né pour attendre, recevoir des ordres. J'avais jamais fait que ça. Oh, je suis pas fière d'avouer ça. Le genre de souffrance dont qu'un ouvrier ne parle, ça fait trop mal d'y penser. Ce que j'étais. Une unité dans les effectifs de travail, je ne comptais pas. C'est à peine si j'existais. Ne jamais rien faire. Même dans le détail, qui constitue une initiative. C'est pas naturel à l'homme de devenir une chose. C'est avec la victoire du Front Populaire qu'on a senti la pression s'affaiblir. Après avoir toujours plié, tout subi, tout supporté en silence pendant des mois et des années, on a enfin osé se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, devenir des hommes pendant quelques jours. La grève est en elle-même une joie simple, une joie sans détour, oui, une joie. Hier, j'ai été voir des copains dans une usine où j'ai travaillé pendant quelques mois. Quelle joie de pénétrer dans l'usine, de parcourir librement les ateliers et d'entendre,
au lieu du fracas impitoyable des machines.
De la musique, des chants et des rires. Simple joie de vivre au rythme de la vie humaine. Oh, bien sûr, la vie dure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. Pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que la contrainte, le silence, la soumission. Les souvenirs mettront un peu de fierté au cœur, un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. On est heureux.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des violettes, tant qu'on en veut. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes.
Les alouettes font des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue.
Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Il y a des sourires dans chaque fossette.
L'amour nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
1936. C'était un printemps de lutte, un printemps extraordinaire, un printemps pour retrouver sa liberté. Ils avaient promis du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse, et pour le monde, la grande paix humaine. Le jour où le Rassemblement populaire l'a emporté, le 3 mai, j'ai su que quelque chose avait changé.
Les grèves ont déferlé sur le pays. Usine Lavalette de Saint-Ouen, usine Sauterre-Arlée de Paris, usine Hotchkiss de Levallois, usine Crété de Corbeil.
Usine de Voitine, Renault, Citroën.
Les magasins Prix Unique et les galeries Lafayette.
Et surtout, surtout la fromagerie Saint-Martin. À la fromagerie Saint-Martin, le patron était parti, mais les fromages étaient restés. Le stock se décomposait lentement, camembert après camembert. La fédération des locataires avait fait circuler une pétition pour que les pouvoirs publics opèrent le nettoyage qui s'impose et détruisent la malodorante qu'à présent.
C'était la grève sur le tas. Comme on avait peur que les patrons embauchent des jaunes pour nous remplacer, on a occupé les usines. 2 millions de grèves. Ça faisait un gigantesque campement. Les ouvriers étaient là, ils habitaient là, ils dormaient là. Ils étaient là, jour et nuit.
La première chose que j'ai faite, quand on s'est mis en grève avec les camarades de l'unité 34 de chez Renault, ça a été de visiter l'usine, toute l'usine. Avant, on avait interdiction d'aller voir ce qui se passait à côté, alors je me suis baladé dans l'usine.
C'était la fête. On dansait la balle, fait la farandole. Marcel avait un nez pour l'accordéon, Camille son violon. On jouait au billard ou aux fléchettes. On buvait du vin, mais pas d'alcool fort. On savait se tenir.
J'ai vu Liberté, Liberté chérie sur les escaliers des galeries Lafayette. Une comédie en 5 actes. C'était le théâtre de la paix. Ils étaient venus pour nous par solidarité. Rien que pour nous.
On dansait la balle sous la carmagnole. On buvait du vin, mais pas d'alcool fort.
On savait se tenir.
On avait organisé tour de garde, piquet de grève, service de nettoyage et service d'entretien. On a bichonné nos machines, avec amour et avec soin.
Pour le ravitaillement, la boulangère nous avait offert des croissants. Et les maraîchers, des salades. À l'entrée de l'usine, il y avait un tronc, des grandes banderoles. Inoccupés. 20e jour de grève. Solidarité. Lorsqu'on ne pouvait pas quitter l'usine, on faisait descendre et remonter du haut des murs d'enceinte à panier au bout d'une corde. On y mettait du vin et des casse-croûtes. C'était comme ça. Aussi simple que ça.
On brandissait le poing et on chantait l'International et la Carmagnole.
Il y avait des chants, des drapeaux, des cortèges et des slogans.
On réclamait du travail pour tout le monde, des salaires plus élevés, des délégués dans chaque atelier et plus de liberté. Vous voulez chômer le 1er mai sans être renvoyé. Vous m'avez demandé les vacances payées, mais sans y croire vraiment. Je me souviens, 1935, chez Renault, on avait réclamé les garages à vélo bien avant les congés payés.
On dansait la balle, fou la farandole. On buvait du vin, mais pas d'alcool fort. On voulait du pain et des jours en or.
Août 1936, Albert Lebrun demande à Léon Blum de former son gouvernement. 4 juin au soir, le gouvernement est formé. 5 juin, 11h, première réunion de cabinet. 6 juin, 15h, déclaration radiodiffusée de Léon Blum. Annonce de 3 réformes. Les contrats collectifs, la semaine de 40 heures et les congés publics. La loi est obligatoire et s'applique à toutes les catégories de salariés, sans distinction de sexe, d'âge ou de nationalité. Le congé est de 15 jours, dont 12 jours ouvrables. Quinze jours de liberté. Et pourtant, Léon, les fameux congés payés n'apparaissaient même pas au programme du Front Populaire. Un projet de loi sur les vacances payées s'était bien endormi pendant 11 ans au Sénat. Mais tout le monde semblait l'avoir oublié. Les congés payés pour tous et pour tout de suite. Voilà ce que vous réclamiez, cher salopard en casquette. Que ces jours de liberté ne soit plus réservé aux seuls ouvriers d'Alsace-Lorraine et prolétaires en col blanc, employés, fonctionnaires, cheminots. Une loi pour tous. Finalement, Léon, vous avez arraché l'unanimité à une assemblée qui pourtant ne vous semblait pas acquise. J'ai longtemps cru que c'était l'unanimité, moi une voix. 563 votes pour un seul contre. Et je me demandais qui pouvait bien être ce type qui n'avait pas voté pour les congés payés. Un homme qui considérait la France comme son jardin personnel. Un vieil enfant qui n'a jamais aimé jouer. Ou un type qui ne voulait aucun souvenir. Surtout pas de souvenirs gratuits. Finalement, personne n'a voté contre les congés payés. 564 votes pour, 564 types pour les souvenirs gratuits.
Qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à la faire chez nous. À bas le canon qui gronde, il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne crée plus de faim, de faim, de faim. s'il faut, Léon, secourir la vieillesse. Pas de médaille, mais du feu et du pain. Repose aux vieux, afin que la jeunesse puisse travailler et ne plus tendre la main. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison. Car Marianne est une meunière et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, montrer que la République ne peut pas vivre sans la liberté. Sans liberté, rien de démocratique. Sans liberté, pas de fraternité. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison. Car Marianne est une meunière et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne manque plus de pain, de pain, de pain.
Julien,
Attends.
Encore une, allez. Si tu savais cette joie ce jour-là, pour moi, ça a été, on va pire qu'une bombe qui tombait sur l'usine. C'est pas possible que maintenant on se promène et qu'on nous paye. Moi, j'étais jeune. Me donner de l'argent sans travailler, ça me faisait pas grand-chose. Mais c'est de voir les autres que par la suite j'ai compris ce que ça voulait dire. Avoir des congés payés. Elle pleurait de joie en disant on va être payé et on travaillera pas.
Ouais, c'était une fête. Pas seulement parce que ça nous a sorti, mais surtout parce qu'en ce temps-là, il y avait les cols blancs, là, les beaux messieurs, là, qui sont dans un bureau avec une secrétaire à leur côté, et qui sont assis dans un beau fauteuil en cuir, qui avaient droit au congé payé. Tandis que nous, pauvres mineurs, au fond de la mine, dans la poussière et l'eau, on n'avait pas le droit à rien.
On avait gagné les congés payés, le fric à pris. Il y avait eu du foufi. C'est pas le tout d'avoir les congés payés.
Ouais, c'est vrai, on n'avait jamais goûté à ça.
Il fallait organiser quelque chose. Il fallait discuter pour savoir comment on allait partir. Comme disait Alfred Coste, ça va pas leur faire plaisir au train d'amener nos puffs là-bas sur la Côte d'Azur. On n'avait jamais goûté aux vacances payées. On ne partait que pour la journée. Pour nous, les Lyonnais, l'aventure, c'était l'acte d'Aigbelette.
L'acte
d'Aigbelette. Eh ouais, hein, l'aventure, c'était pas loin. Tiens.
Moi, je ne suis pas à tout changer. C'était pas à la mode de partir. On manquait d'imagination. Les congés payés, c'était d'abord ne plus aller à l'usine, rester chez soi, ne plus entendre les sirènes, la machine et le contremaître. Oui, nous on a pris des vacances, mais on est resté à la maison. On n'avait pas assez d'argent pour aller quelque part. On n'avait même pas de bicyclette. Alors on est resté à la maison. Mais c'était déjà un rêve. J'ai vécu le plus beau rêve de ma vie.
Nous, on n'avait qu'un vélo pour nous sept. Mon frère aîné avait eu besoin d'un vélo pour aller travailler. Alors mon père lui en avait acheté un. On a tous appris à marcher dessus. Si, tous les sept, les uns après les autres. Mais pour les vacances, nous, on allait à pied. Juste pour la journée.
Oui, on allait à la rivière. On prenait casse-coute pour la journée et on ne faisait que chanter et danser sur toute la route. On mélangeait tout, on se cultivait. L'une portait le poulet, l'autre le canard, l'autre un lapin. Et on mangeait fort l'herbe. On était entre voisins et on était bien.
Ah oui, on s'entendait bien.
Des tricots de peau,
des robes pleines de fleurs,
de la gomina, du savon de Marseille, L'eau de Cologne pour sentir bon.
Le fer à friser pour être belle.
La chemisette à carreaux.
Le canotier.
Le chandail de papa.
La chemisette à carreaux. Le canotier. Le chandail de papa.
Les maillots de corps, les corsages à fleurs.
Les pyjamas.
Les tenues de sport.
La marinière, les petites culottes en coton et la gaine rose bonbon.
Et puis, tout ce qui rentrera pas dans la malle et qu'on va porter à bout de bras de Paris à Cannes.
La canne à pêche.
L'épuisette.
Ton énorme oreiller en plume.
Mais je dors pas sans mon oreiller.
Bourgeoise, on aime son petit confort. À moi les siestes. Et la marmaille n'a plus qu'à se tenir à carreau.
Et moi, je me pavanerai pas en plein soleil. Et je risquerai pas une insolation pour séduire ces beaux messieurs.
Non. Pour séduire ces beaux messieurs, j'aurai mes raquettes Jokari.
Trois paires de raquettes Jokari.
Des shorts, des caleçons longs, des chemises en coton.
Et puis, tout ce qui rentrera pas dans la malle, ou dont on servira pas, puis qu'on emmène quand même. La capeline de pluie,
les gros chandails en laine,
la robe de soirée à poupons.
La nappe. Oh, inutile la nappe.
Non, mais on va pas manger comme des pauvres quand même.
Il y a aussi tout ce qu'elles ont oublié.
Les chaussettes,
le tire-bouchon, les piquettes dents, les boules de pétanque, la pompe à vélo, et même mon bibi fricotant. Chaque année, c'était pour lui la même surprise. Il ne s'y était pas attendu. Pas encore. La malle était là. Énorme. Grande ouverte, bouchant le passage, répandant une odeur grisante, chargée de promesses. Jacques retrouvait d'emblée l'ambiance heureuse qu'il connaissait si bien. Le départ en vacances venait de commencer. Quand il lui arriva d'y repenser, beaucoup plus tard, Jacques se demanda ce que la malle pouvait bien sentir au juste. L'odeur si particulière, entêtante. Il ne l'avait jamais retrouvée. Nulle part. Il fallait 15 jours pour remplir la malle. Une première couche de chemise de flanelle prenait place au fond. Elle ne serait pas utilisée, mais la mère de Jacques les remettait chaque année contre les secousses du trajet. Et aussi pour le cas où son mari attraperait froid. L'ombre est traîtresse dans le midi. Par-dessus ce soubassement venait le linge d'été, par strates successives. Tous les deux ou trois jours, une nouvelle couche, au fur et à mesure des lessives et du repassage. Jacques surveillait le niveau chaque soir en rentrant du lycée. Quand la malle était à moitié remplie, divers objets faisaient leur apparition, comme de nombreuses paires d'espadrilles, des filets de pêche, le canotier, les appareils photo à plaque de verre et la trousse à pharmacie. Un soir, la malle n'était plus là, enlevée par la messagerie du chemin de fer. Il advint que Jacques réouvrit la malle héritée de mon papa, exactement 50 ans après les vacances de 1936. La malle était vide, lourde de son seul poids. Jacques souleva le compartiment à moitié tombé en poussière, espérant dénicher au moins une photo jaunie ou un vieux filet de pêche, mais ne dénicha qu'un vieux cintre tordu. Les paradis perdus de l'adolescence. Il n'est pas donné au premier venu de les retrouver. Essayez donc de le rattraper, le temps perdu.
Le premier problème, c'était les bagages. La quantité.
Mon père nous devinait le tas des valises et...
Laconique.
Bravo les enfants, trois fois le volume du bungalow. On vide tout et on recommence. Simplifier de la consigne, ne rien emporter, mais surtout, surtout ne rien oublier. L'inventaire a, a posteriori, occupé une bonne partie du voyage.
Tu n'as pas oublié les casse-croûtes au moins. Et la chopine, François, tu y as pensé à la chopine. le sujet d'engueulade annuelle, c'était les robes des frangines. Pas tellement pour les robes, mais pour les jupons. Un volume incroyable, ces jupons-là, à peu près incompressible. Mais ils étaient indispensables pour le bal du 14 juillet.
Quand on danse, une robe, il faut que ça tourne.
Un jour, juste avant le départ, François a pris sur lui de remplacer en douce robe et jupons par favoris chez un Monopoly. Résultat, la fête m'a transformé en deuil planétaire. Le reproche de cette trahison nous a poursuivis pendant tout le voyage retour. Il n'a jamais recommencé.
Camarades, on a voulu voir ce que le camping était. Alors, on est parti. Un vélo, s'installer sur les bords du Lot pour les semaines.
Le matin, on allait à la pêche. On allait chez les agriculteurs acheter soit du vin, soit du jambon. On dormait sur la fougère sèche. On a passé notre première semaine comme ça.
C'était des rigolades. Je n'ai jamais rien vu de plus beau que ça.
Les auberges de jeunesse. C'était la vie au grand air. Pour le corps, exercice physique et pleine fatigue. Pour l'esprit, atmosphère saine, camaraderie pure, vie collective, chansons, gaieté et en même temps... Discipline.
Tu parles d'une discipline? On chantait international en tournant la mayonnaise, on hurlait la Vierge Écurie, et on croissait à chaque fois qu'on voyait un prêtre.
Atmosphère saine, vie collective, discipline.
Ce qui nous a plu d'abord, c'était la nature. Avant, on avait tout juste le temps d'aller jusque sur les bords de la Marne. Enfin, on ouvrait la fenêtre. On prenait l'air, quoi.
Tu l'as dit jusqu'au samedi pour gagner des rallyes. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subi un propriétaire, percé par la boulangère, et trimballé sa biche.
Le dimanche vivant, on file à logement, alors brusquement, tout paraît charmant.
Quand on promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux, quand on se promène au bord de l'eau.
On m'en y retourne, hein? Comme on ne savait pas trop où aller, on était retourné dans le village des grands-parents. C'était l'exode rural en 500 mètres. C'était la fête. C'était presque le bonheur. Mais il y avait cette guerre d'Espagne qui nous traumatisait. On sentait qu'il y avait des camarades de l'autre côté qui souffraient. Dans notre cœur, on était joyeux, mais ça...
Elle nous assombrissait. Le bonheur, c'était vraiment pas pour tout le monde.
On faisait du sport et de l'exercice en plein air. Les filles s'étaient mises en short. Dans un village des Pyrénées, on avait fait scandale. On nous avait traités de nudistes presque intégraux.
Ouais, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, des nudistes presque intégraux.
J'avais laissé mes enfants à mon mari. Et moi, j'étais partie toute seule. Une semaine de repos, sans soucis ni rien. Je pensais à personne. Pour une fois, c'était les autres qui me servaient. Et j'ai rien foutu. Je déjeunais, je dînais, je soupais. Je ne faisais rien, rien, rien.
Ah si, je me souviens avoir écrit à Léon Blum.
Camarade Blum, président du conseil, je te remercie pour les congés payés dont je profite en ce moment. Et vive notre parti socialiste. À Apollo de Gennevilliers.
Une chanson a jailli sur la plaine et réveillé les échos d'alentour. Elle nous dit et sa foi nous entraîne.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Elle a franchi le vallon, la colline, ville et village et faisant main des tours. Elle a gagné l'atelier et l'usine.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Elle grandit, elle s'enfle et s'élève.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Le batelier la murmure à la grève. Le boulanger la fredonne à son four. Et le dormeur la redit dans son rêve.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
La midinette en piquant son aiguille. Le vieux mendiant implorant dans la cour. Et chaque soir, tous en cœur, en famille.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Elle a conquis peu à peu tout l'espace.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
De bouche en bouche, elle court, elle passe. Elle s'apaise et bondit tour à tour. Dans tous les cœurs, elle marque sa trace.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Elle a gagné le palais, la chaumière. Elle a calmé la colère au faubourg. Et dans nos yeux, elle a mis la lumière.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Au gai soleil, à ta femme, à ton frère, tu dois, ami, la chanter chaque jour. Qui chante ainsi est heureux sur la terre.
Vive la vie, vive la joie et l'amour.
Une chanson a jailli sur la plaine et réveillé les échos d'alentour. Elle nous dit et sa foi nous entraîne.
Vive la vie, vive la joie.
Ça va,
Qu'allons-nous faire ici? Nous irons faire un petit tour devant la mer, mon amour. Nous irons voir si les vagues sous le ciel clair roulent toujours. Nous irons voir des souvenirs qui nous enchantent là-bas. Les rochers gris, les oiseaux du paradis qui chantent, qui font bonjour aux enfants, aux amoureux et au soleil. Un épicère un peu folle dans le chignon est pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui. Toi et moi, nous deux, rien que nous deux, hein? Oui.
Bon, on va te baigner.
Gringoire de notre envoyé spécial le 8 août 1936. Les salopards en casquette envahissent les plages des habitués des villégiatures. C'est une ruée vers les seuls endroits dont ils ont entendu parler, comme Tourville et Cannes.
Pour le Figaro de notre envoyé spécial Georges Ravon, 5 août 1936. Les 12 wagons du convoi spécial de 16h45 pour Nice étaient combles. Hier soir au départ de la gare de Lyon. Foule sobrement, mais correctement vêtue. Il y avait des pochettes écarlates, des cravates rouges, des églantines noyées dans la masse des complets bien brossés. Les dames aussi avaient fait vers l'élégance un effort louable.
et souvent heureux. Il y avait des bérets, des chapeaux fleuris, des tours de cou frisés au patifer et des fourrures attendrissantes. Un second convoi est attendu vendredi, puis d'autres sur un rythme accéléré. La multiplication des trains rouges sur la Côte d'Azur est en bonne voie. Et la démultiplication des trains bleus par le même coup.
Pour Candide de notre envoyé spécial Thomasson, le 27 août 1936. Dans l'ensemble, on peut dire que la quantité l'emporte sur la qualité.
Pour l'Écho de Paris, le franc-parleur, 2 septembre 1936. Les apaches du Front populaire arrivent. Il y a de quoi, on s'en doute, se faire vider instantanément tous ces pays de ces estivants et touristes. Mais c'est le dernier souci du gouvernement, qui triomphera dans ses communiqués de l'augmentation du nombre de voyageurs. Comme il a triomphé de l'accroissement du nombre de touristes sur la Grande Bleue, dont le plus gros était constitué des congés payés, voyageant à prix réduit et à moindre frais.
Pour l'œuvre, Pierre Rocher, le 18 août 1936.
Ils cachent tellement bien leur jeu qu'on les prendrait pour de braves gens venus en week-end. Ils ne mangent pas de saucisson sur les plages. Ils ne chantent pas la Carmagnole. Ils n'insultent pas les amis. Ils ne crachent pas sur les automobiles.
Tout au long de la journée, vous les voyez en caleçon de bas. Ils se baignent. Ils se font dorer la peau. Ils lisent les journaux. Les salopards portent des shorts, des pyjamas et des slips. Tout comme la marquise de Breteuil, qui sous le nom de Moussia en montre tout de même davantage.
Et quand elles passent devant vous, en faisant claquer les semelles de bois de leurs sandales, vous êtes bien obligé de constater qu'il n'y a rien qui ressemble plus au dos nu de la femme d'un financier que le dos nu de la femme d'un métallo de Billancourt.
Cela ne va naturellement pas sans inquiétude du côté de ceux qui tiennent à réserver la Côte d'Azur au roi en chômage, gigolo en habit et vieille dame fardée. Ne craignez-vous pas, chuchotant sous les porches, que ces gens-là, éblouis par notre soleil, ne finissent par occuper leur pays.
Gloire à vous, Léo Lagrange, à qui nous devons nos vacances. Gloire à vous. Tous les squares vous le diront. Et les stades, et les CES. Et les piscines qui portent votre nom. Je suppose que vous vous fichiez des plaques. Et vous aviez raison. Votre gloire est ailleurs. Je la vois dans les premiers rayons de l'été. Les ateliers qui débraient, les ordinateurs qu'on débranche, les balises qu'on boucle, les portes qui s'ouvrent, les trains supplémentaires, les avions qui s'envolent, le temps qui s'arrête, ces photos de douaneau et ces cartes postales si gentiment vides de l'été. Cher papa, chère maman, ici, tout va très bien. Si vous n'avez pas mon adresse, écrivez-moi. Je vous l'enverrai. Annette,
Et bien sûr, il a fallu rentrer. Quitter les espadrilles, reprendre le chemin de la ville et rejoindre l'usine. Il n'y a rien à faire contre la sirène. C'est le retour au turbin. De la lavande plein de poches. 15 jours de congés payés. 15 jours. C'est toujours ça de gagner.
Il y a la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie.
Partout, il y a de la joie.
Nous sommes la jeunesse ardente qui veut escalader le ciel. Dans un cortège fraternel, unissons nos mains frémissantes. Sachons protéger notre pain, nous bâtirons un lendemain qui chante.
En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, visez les filles de l'espérance. Nous ferons se lever le jour, à nous la joie, à nous l'amour.
Se déploie, courons dans son rayon, luttons. Avec tout ce que nous gagnons, brisons la chaîne qui nous broie. Vive la paix, la liberté, notre printemps veut un été de joie.
En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, visez les filles de l'espérance. Nous ferons se lever le jour, à nous la joie, à nous l'amour.
Nous les fils de 93 de la commune au noir charnier, et les héros de février, pour que la haine enfin s'apaise. Sur nos champs et sur nos cités, nous vous apportons l'unité française.
En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, visez les filles de l'espérance. Nous ferons se lever le jour.
Ainsi se termine cette émission en hommage au mouvement du Front populaire et à l'obtention des congés payés en 1936, réalisée à partir d'un spectacle donné par l'Atelier du désordre dans une mise en scène de Mo Martin, spectacle qui a été présenté en janvier 2000 à la Condition des Soies. En sus des documents sonores du spectacle, vous avez pu entendre successivement les morceaux suivants. Au devant de la vie de Mygène et Perret sur une musique de Chostakovitch dans l'interprétation de la chorale AEAR, la chorale des artistes révolutionnaires. Puis, c'était la chanson de Monteus qu'il interprétait lui-même Vasileon. Ensuite, vous avez pu entendre Vive la vie, vive la joie et l'amour de Dorin pour les paroles et Dunievski pour la musique, dans l'interprétation de René-Louis Lafargue. Enfin, c'était la chanson « Jeunesse » de Paul Vaillant-Couturier pour les paroles sur une musique d'Arthur Honegger, interprétée par Jean-Christophe Benoît et les chœurs de la télévision française. Toute chanson du Front populaire. Thank you.
Thank you.